Chronique du Pays Toulousain. Une émission proposée par les Toulousains de Toulouse avec Aline Thomazin et Sébastien Pénary.
Chers auditeurs, bonjour. Alors, demeures et familles, dans le cadre des chroniques du Pays Toulousain, vous connaissez notre feuilleton. Nous allons aujourd'hui partir à l'hôtel de Chalvet en compagnie de nos deux guides préférés, Michel de Rivoire et bien sûr Aline Thomazin. Bonjour à tous les deux.
Un grand plaisir, Sébastien, et bonjour à nos auditeurs.
Alors, où est l'hôtel de Chalvet?
Alors, son adresse précise est 12 Place du Parlement, qui est, je crois, n'est-ce pas, l'île, l'ancienne rue de l'Inquisition, mais qui aujourd'hui se trouve au débouché des rues de la Fonderie, la rue Pharaon qui donne dedans, et surtout sur la place du Salin.
Oui, tout à fait, avec vraiment une façade qui est très, très visible. Alors, l'époque de construction de ce très, très bel hôtel, très grand.
1610-1620, vraiment le premier tiers du XVIIe, et c'est un des premiers modèles de ce qu'on appelle, avec un sourire, le Louis XIII toulousain. Il a été construit pour François de Chalvet, un conseiller au Parlement. Et surtout, je voudrais dire, pour cette chronique et pour probablement les deux autres qui vont suivre, on va être au cœur de notre sujet des demeures et familles, puisque avec les trois adresses que nous allons évoquer, l'adresse toulousaine et à la campagne, on a encore des témoignages visibles aujourd'hui, la longue série depuis le 16e, 17e jusqu'à nos jours, de ce patrimoine qui est resté aux mains de la même famille, même si le nom a changé. Donc on va vraiment, ça peut être, je pense, des émissions assez denses de ce point de vue.
Et pardonnez-moi de peut-être de déflorer le sujet, mais est-ce qu'on va rester dans les mêmes professions, si je puis dire?
Ah, alors au risque de lasser un peu nos auditeurs, sorti du Parlement des capitoulats, quelques financiers vraiment qui tirent leur épingle, on est toujours dans cet entre-soi.
L'endogamie va régner,
d'accord.
Donc.
L'enquedogamie.
Donc, on est quand même, on va rester, si je comprends bien, dans le quartier parlementaire de Toulouse.
Tout à fait. Et c'est vraiment là, on ne peut pas faire plus près du Parlement, puisque ce sont les bâtiments actuels, la cour d'appel du tribunal judiciaire qui sont, comme chacun le sait, à l'emplacement de l'ancien Parlement.
Alors, donc, ce François de Chalvet est parlementaire, il a un grade, si je puis dire, élevé dans le...
Il commence au niveau de conseiller de parlement, c'est-à-dire la plupart des magistrats, des juges, mais il va bien sûr s'élever, et on va voir grâce essentiellement à la stratégie matrimoniale, toujours la même chose, puisqu'il va accumuler des seigneuries, donc des terres, donc des revenus, et avec tout cela, il va pouvoir acheter des charges et se positionner dans des positions beaucoup plus hautes. Donc, et peut-être voulez-vous qu'on passe d'abord de la construction elle-même et de son évolution.
Oui, tout à fait, mais il y a deux François de Chalvet, d'après ce que je sais.
C'est fréquent. François 1, François 2, Matthieu 1, Matthieu 2,
voilà.
Nous allons voir.
Et donc c'est François 2 qui est construit, ou François 1 peut-être?
Alors, comme on est au début du XVIIe, c'est le François 1. Qui est mariée en 1588,
d'accord,
avec une Jacqueline de Régnier, elle-même dame de Fenouillet. Et c'est par là que vient d'ailleurs le premier hôtel, dit de Chalvet, qui a une structure beaucoup plus ancienne, puisque début XVIe siècle, toujours un parlementaire, le conseiller au Parlement Simon de Régnier, fait construire un premier hôtel sur l'emplacement de 5 maisons de la rue de l'Inquisition. Donc cette rue qui vient vraiment de la porte narbonnaise.
On rejoint le propos qu'on a déjà tenu sur le rachat, la mutualisation de plusieurs parcelles.
Voilà, on pourrait dire de la croissance externe.
Oui.
Bon, et donc il y a une stratégie donc, immobilière par cette famille Régnier, qu'on va peut-être écourter. Mais ce qui est intéressant, c'est la date de 1588 en effet, puisque c'est là où arrivent les Chalvet, par ce mariage avec une mademoiselle de Régnier. Et il va s'intituler ce François Ier de Chalvet. Je rappelle ses dates, 1559-1622, à cheval donc sur le XVIe-XVIIe siècle, co-seigneur de Merville, de Fenouillet, de Saint-Loup, de Gaujouze, près de Longage. Et toutes ces seigneuries, ces terres donc, et ses revenus vont l'aider, donc, comme on nous l'a dit, à bien s'ancrer dans le réseau parlementaire toulousain. Il a pour père Mathieu de Chalvet, qui lui avait fait un encore plus brillant mariage, puisqu'il avait épousé Jeanne de Bernuy, dame de Merville.
Ah oui.
C'est par là que la propriété de Merville, que tout auditeur doit connaître, au-dessus de Blagnac, au nord de Blagnac, c'est par là que cette propriété est rentrée dans la famille Chalvet jusqu'à nos jours.
Et donc, on peut admirer cet hôtel. Est-ce que vous pouvez nous donner un angle de vue par rapport à quelqu'un qui arrive sur la place du Parlement depuis la rue de Languedoc?
Alors, par chance, on a du recul, ce qui n'est pas le cas souvent dans les rues étroites du centre. Bien. Alors, c'est une jolie façade briques et pierres, alternance de briques et pierres, des ouvertures, tout à fait caractéristiques du début du XVIIe. À l'intérieur, on a un bel escalier rampe sur rampe, avec deux piliers servant de noyaux qui font alterner aussi la brique et la pierre. Tout ça donne une idée du coût que ça avait dû représenter. Et les rampes de cette balustre, les balustres de cette rampe sont également en pierre. Sauf que la suite du temps, et notamment le XXe siècle, ou le XIXe en tout cas, a fait sauter les meneaux, c'est-à-dire les croisillons à meneaux, à double meneaux, au moins sur la façade sur rue, sur la place du Salin. Il y en a également une entrée de parking qui a un peu défiguré une porte cochère. Voilà, mais l'essentiel, c'est encore la belle façade et surtout le porche, la belle entrée, qui est surmontée du blason, jadis de la famille de Chalvet et aujourd'hui de la famille de Pins, qui occupe l'hôtel.
Ah. Est-ce que l'hôtel, on a la vue frontale sur la place du Salin, est-ce que l'hôtel rentre vraiment... de façon intéressante dans le bâti. Quelle est la surface qui est occupée par l'hôtel?
Alors, je connais en perche parce que je l'ai lu, mais je ne pourrais pas... Ou en canne, pardon, en canne carrée. Je ne pourrais pas vous la traduire en
surface.
Donnez-nous
en mètre, ça ira très bien.
Voilà, mais c'est une jolie cour, si vous voulez. Tout le monde ne peut pas rentrer, mais c'est une cour. On n'est pas dans les beaux hôtels entre cour et jardin, ce que nous verrons dans les prochaines
chroniques. Y a-t-il un jardin, d'ailleurs, dans ce...
Je ne le crois pas. C'est-à-dire vraiment, quand on voit la vue à satellite, oui. C'est très dense. C'est vraiment un îlot très dense. Oui. Mais peut-être pourrions-nous nous intéresser à cette famille Chalvet, parce que vraiment, elle marque de sa présence le XVIIe jusqu'au XXIe siècle, en changeant de nom. Alors, la partie brillante de cette famille, c'est tout de même le XVIIIe, on s'en doute. Il faut savoir que les Chalvet Rochemontès, prononçons à la toulousaine, mais ça s'écrit T-E-X à la fin, est une famille d'origine auvergnate. Et il y avait trois branches qui ont été très bien décrites, puisqu'ils ont fait leur preuve de noblesse assez régulièrement. La cadette est venue s'installer à Toulouse, pour des raisons qu'on évoque souvent, c'est-à-dire la recherche des emplois, des charges qui permettaient de progresser. Et quelquefois même des emplois ecclésiastiques. Donc, le François de Chalvet Ier a eu un fils qui s'est élevé à la charge de gentilhomme ordinaire de la chambre du roi Louis XIV. Nous sommes à la fin du... Enfin, oui, dans le dernier tiers du XVIIe. Son fils François II, hein, on reprend le nom de l'aïeul, dit baron de Fenouillet. Hein, on choisit le nom de la terre qui est le plus en vue. À l'époque, il faut savoir que le château de Merville n'existe pas. Pas encore, pas sous cette forme. Et il fait un encore plus joli mariage que ses prédécesseurs, puisqu'il épouse la fille du trésorier de France à Toulouse, Bernard de Rèche de Penautier, que nous verrons dans une prochaine émission. Donc, tout ça habite l'hôtel à Toulouse.
Vous interrompre, on voit l'importance qu'on a déjà notée dans les émissions précédentes du mariage, de ces
unions.
Et de
la dot qui marche avec, bien sûr. Ces contrats.
Et toujours la transmission des offices de père en fils, qui fait que les offices sont les fonctions publiques au Parlement.
Tu fais du teasing en disant ça, parce qu'effectivement, ils vont acquérir une charge unique, qui est celle de sénéchal, de grand sénéchal de Toulouse. Et cette charge de sénéchal va marquer l'apogée de cette famille Chalvet Rochemontès, puisque le grand sénéchal de Toulouse, qui se fait appeler Marquis de Chalvet, homme éclairé s'il en est, c'est lui qui va construire autour de 1743, ça va de nombreuses années, le château de Merville que nous connaissons.
Ah, oui.
300 000 briques, pour vous donner une idée de la grandeur du projet. Magnifique. Avec un superbe jardin régulier, dont des tissus, le labyrinthe de Buis, qui était vendu aux visiteurs à la visite. Sauf qu'il se ruine, ou en tout cas, il crée des dettes, ce qui était courant à l'époque, et c'est son fils, le dernier de la série, longue série des Chalvet, André-Antoine, qui doit éponger malheureusement ses dettes. Pour cela, il vend en 1762 l'hôtel de famille, place du Parlement, à un certain Jean-François de Pujos, lui-même conseiller au Parlement. Et la charge de Sénéchal, si convoitée, si exposée aussi, est vendue au marquis de Porte, tout à fait à la fin de l'Ancien Régime, 1788, mais c'est la fin des beaux atours de cette famille. Reste la propriété, et surtout le château de Merville, qui ne sera pas ni démoli, ni vidé au moment de la Terreur, de la Révolution. Voilà. Donc, l'hôtel de famille ici, à Toulouse, a été transmis à la famille de Pince-Montbrun, qui doit en occuper en partie, qui a posé ses armoiries. Pourrait-on nous les citer, d'ailleurs, ces armoiries, si on a le temps.
Les armes des Chalvet, De Gueule a un lévrier d'argent, rampant accolé de gueule et une bordure d'or, écartelé d'azur, a une bande d'or chargée de 3 croisettes de gueule et accompagné en chef d'une tête de lion d'argent, arrachée et languée de gueule, et en pointe une rose d'argent sur le portail martelé à la Révolution.
Et celui des pinces ?
Alors celui des pinces, c'est tout très simple. De Gaulle à 3 pommes de pain d'or.
Voilà. Bon.
Alors évidemment, il faut regarder ça dans les armoriaux parce qu'ils ont souvent été martelés, comme je disais.
Est-ce qu'on sait si cette succession de familles a entraîné des modifications dans l'architecture de l'hôtel?
Alors, pas ma connaissance, je n'ai pas réussi à le voir, le lire. C'est assez discret d'ailleurs. Le devenir de la façade, on l'a dit, a été modifié pour des raisons qu'on cite souvent de commodité, de mode. Mais c'est surtout ce qui retient l'attention, c'est à partir de 1762, elle se sépare de l'hôtel. Cette famille brille à Merville, c'est surtout ça.
Oui.
Bon, et par mariage, après la Révolution, le domaine de Merville va rentrer dans la famille Villèle. Et là, on a d'autres résidences toulousaines dont nous parlerons dans une prochaine émission.
Eh bien, merci infiniment.
Et rendez-vous tous,
cher Michel.
Rendez-vous tous, place du Parlement, pour voir cette façade.
Oui, absolument.